Et puis comme deuxième terme, il y a celui de hôte de passage ou résident temporaire, qui souligne aussi la précarité de leur situation. Ce ne sont pas des citoyens, ce sont des résidents temporaires, des immigrés, considérés comme des immigrés. En grec, la langue originale du Nouveau Testament, le terme désigne l'homme en séjour limité qui est toléré dans ce pays qui n'est pas le sien, mais qui est sans statut et sans protection légale. Des citoyens de seconde zone, en quelque sorte. Et on leur fait bien sentir. Et il est probable que ces chrétiens, ces résidents temporaires de la Turquie actuelle, se posent des questions identitaires. Qui suis-je vraiment dans ce monde? À quel royaume j'appartiens? Quelle est ma cité? Comment me situer? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être chrétien quand on vit toutes ces difficultés et ces tracasseries? Et ces hommes et ces femmes ont besoin d'être encouragés. Et Pierre va les encourager. C'est l'objectif de sa lettre, de sa première lettre. C'est l'encouragement. Et il va le faire non pas en minimisant les difficultés, il va parler des épreuves au chapitre 1, il va dire que ces épreuves nous attristent, amènent de la tristesse, il n'y a pas là d'idéalisation de la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des épreuves attristantes, mais Pierre va nous encourager à regarder, à concentrer le regard vers une autre réalité, celui de notre héritage. L'héritage pour les chrétiens qui les attend au ciel. Alors le ciel, ce n'est pas dans les nuages ni dans la stratosphère, c'est dans la présence de Dieu. Cet héritage de la présence de Dieu qui nous attend. Et il va utiliser une expression extraordinaire pour en parler. Il va parler d'une espérance vivante. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante qui donne la vie, qui change la vie cette espérance, c'est-à-dire qui, c'est pas simplement un avenir meilleur qui nous est réservé mais qui change aussi le présent, cette espérance n'est pas une échappatoire vers une vie et un avenir meilleur, c'est une espérance qui nous permet de vivre le présent tout à fait différemment. Et parce que cette espérance, cet héritage, ce salut, cette réconciliation avec Dieu va changer la façon de nous voir et de voir les choses et de nous situer, de considérer le but de notre vie, le sens de notre existence. Oui, cette espérance vivante va changer les choses et va changer jusqu'à même notre identité. Et Pierre, pour encourager les chrétiens d'Asie mineure, ces SDF, ces immigrés, ces résidents temporaires, ces gens un peu paumés dans l'Empire romain, il va leur faire une carte d'identité toute neuve, en commençant par une nouvelle adresse, une maison spirituelle, verset 5, un temple spirituel. Vous étiez étrangers. Un petit peu errants, de ci, de là, des juifs errants, des pâtres grecs, comme disait Boustaki, ou des têtes de turcs. Vous étiez là et vous aviez du mal à trouver un lieu pour déposer vos bagages. Et Dieu offre à ses résidents temporaires une maison spirituelle. Dieu nous offre l'Église, parce que c'est de cela dont il s'agit quand on parle de maison, comme un lieu de vie, un lieu où on peut se poser, un lieu de grâce. On a fait un parcours alpha ici dans cette église, j'en ai fait plusieurs dans l'église de Pau et dans l'église d'Orléans, et beaucoup de personnes qui faisaient ce parcours alpha disaient « c'est bien, on a un endroit où on peut se poser, et voir où on habite vraiment ». Et le parcours alpha c'est comme une extension de l'église, de la maison de l'église, véritablement un endroit où on peut se poser, parce que l'Église est avant tout un lieu de grâce où on vient, non pas pour ce que nous aurions accompli, mais comme nous sommes, comme pour McDonald's, tel que vous êtes, comme nous sommes, c'est-à-dire des bien-aimés de Dieu, des fils et des filles adoptives par le Dieu de la grâce. Et Pierre va continuer sa carte d'identité en donnant un nouveau travail à chacun, une nouvelle profession, un nouveau job, un nouveau service. prêtres, verset 5, vous avez été formés pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. Et au verset 9, une communauté de rois-prêtres. Pas une communauté d'insectes dispersés, ou pas une communauté de moutons de panurge sans cerveau, non, une communauté de rois-prêtres, excusez du peu. Des hommes et des femmes qui sont consacrés pour un service, c'est-à-dire pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Alors, il ne s'agit pas de sacrifier sa famille, il ne s'agit pas de sacrifier ses amis. La Bible parle d'un premier, et je pense d'un seul sacrifice à fournir, c'est le sacrifice de soi-même. Dans Romains 12, l'apôtre Paul le dit, je vous encourage, lui aussi, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable quand on considère tout l'amour que Dieu a eu pour vous et a toujours pour vous. C'est un culte raisonnable que d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Et là aussi, il y a le mot vivant qui change tout. C'est le sacrifice d'une vie, de ma vie. Dieu nous veut vivant et non pas mort. Le premier sacrifice, c'est nous. Notre premier rôle de prêtre, c'est de nous donner à Jésus. Être prêtre, c'est être consacré à Dieu. Et ça, ça nous donne un rôle nouveau. Et même si parfois ce rôle est difficile à tenir parce qu'on est dans un environnement compliqué, et j'ai envie de dire que c'est de plus en plus complexe ce monde dans lequel nous vivons et nous devons nous combattre avec les moyens du bord, on trouve aussi dans cette prêtrise, dans ce service de Dieu, beaucoup de sens, beaucoup de signification. Ce service donne de l'épaisseur à la vie et aux relations. Et je dois dire, ce qui m'a manqué ces derniers mois, c'était ça, ce service, l'impression de me sentir utile. On a tous besoin de se sentir utile et d'avoir un service et de servir à quelque chose et de servir quelqu'un. Et Pierre met le paquet après la nouvelle maison, la nouvelle adresse, le nouveau rôle, une nouvelle appartenance, une nouvelle nationalité au verset 9. Vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, une nouvelle nationalité en quelque sorte, une nouvelle appartenance. Et nous, et là aussi, on a besoin de se sentir appartenir à quelque chose, de faire partie de quelque chose. On a fait, il y a quelques années déjà, une enquête sur Internet auprès des jeunes européens. Quelles sont les questions que vous vous posez, vous, les jeunes ? Et les Européens avaient répondu, en premier lieu, c'était la question d'identité. Qui suis-je vraiment ? Mais la deuxième question, la plus importante qu'ils se posaient, était la question de la communauté. À quel groupe j'appartiens ? Et Dieu fait de nous un peuple. Et Dieu nous dit, vous, ces petits groupes dispersés qui se rassemblent en mon nom, vous êtes mon peuple qui m'appartient en propre, à lui, à Dieu, l'Église, la prunelle des yeux de Dieu. Touche pas à mon Église, dit Jésus, il s'agit de mon peuple, n'y touche pas, mais entre-y dans ce peuple pour une nouvelle nationalité. Voilà un petit peu la carte d'identité toute neuve que Pierre adresse aux chrétiens qui sont dispersés dans cet empire romain. Un nouveau lieu de vie, un nouveau rôle dans la vie, une nouvelle appartenance. Cette nouvelle identité, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle est super encourageante pour les résidents temporaires que nous sommes. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais on voudrait s'attarder quelques instants sur l'image qui traverse tout le passage que nous avons lu tout à l'heure. C'est l'image du temple. La Bible du Semeur, que nous utilisons ici assez abondamment, écrit comme titre pour le passage « Former un temple pour Dieu ». Et donc, l'encouragement de Pierre porte sur cette notion bien connue des hommes de l'époque. Le temple, on en parle depuis 1000 ans à l'époque, depuis 3000 maintenant, depuis David. Et ce qu'il y a de particulier avec ce temple, c'est qu'il est fait avec des pierres, mais pas n'importe quelle pierre, avec des pierres vivantes. Et décidément, Pierre aime bien mettre le mot « vivant » à côté d'autres mots comme « espérance ». Là, il le met à côté de pierre, pierre vivante, pas une pierre qui roule sans amasser de mousse. J'ai jamais vraiment compris cette expression, pierre qui roule n'amasse pas mousse. On pourra en parler après si vous avez une explication. Mais des pierres vivantes qui sont simplement des pierres qui ne sont pas minérales, mais qui sont humaines. Ça n'a l'air de rien comme ça pour nous, mais à l'époque, c'est une grande nouveauté pour Pierre, pour l'Église, c'est que le temple, c'est eux, les résidents temporaires, le temple, c'est nous. Après le tabernacle, avec l'arche de l'Alliance, la tente de la rencontre dans le désert, après le temple bâti par Salomon, le fils de David, détruit par les invasions assyriennes, rebâti par Zorobabel au retour de l'exil au 4e, 5e siècle, détruit de nouveau en 70 du 1er siècle de notre ère, eh bien, après ces temples en dur, le temple, ce sont les chrétiens de tous les âges et de toutes les nations. J'avais dans ma bibliothèque un livre qui s'intitulait « Le troisième temple sera-t-il bâti ?» Il y a eu le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, et là, est-ce qu'il y aura un troisième temple bâti au moment de l'Apocalypse ? Et je me suis laissé dire que des personnes dans un certain pays avaient préparé déjà les pierres pour ce troisième temple. Mais la question de savoir si le troisième temple sera-t-il bâti est nulle et non avenue, puisque le temple est déjà là, puisque le temple, c'est nous. On raconte que le roi de Sparte, vous savez, cette fameuse cité grecque, recevait un invité de marque. Et il lui fait visiter la ville et il est tellement content de pouvoir lui vanter les murs puissants et solides de sa ville auprès de l'invité. Mais après un certain temps, l'invité lui dit « J'aimerais beaucoup voir ces murs, les murs puissants de la ville, parce que je ne les vois pas. » Et celui qui faisait visiter la ville de Sparte, le roi de Sparte, encore plus fier, lui montre les soldats, les Spartiates, et lui dit « Voilà les murs de Sparte, mes soldats. Voilà le temple spirituel en cours de construction, c'est nous. » Et dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, Paul va dire la même chose. C'est un peu long, mais j'aimerais que nous le lisions ensemble, parce que c'est, à mon avis, c'est fort. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Paul en parle aussi. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, enfin, pas toujours, mais bien coordonnée quand même, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Et ça remet l'Église au milieu du village, n'est-ce pas ? Nous sommes ici pour édifier quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que notre petite personne et plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et nous en sommes partie prenante et nous en sommes pierre vivante de cet édifice. Et vous l'avez entendu dans le texte d'Éphésiens 2, vous l'avez lu aussi, nous y avons été intégrés, deux fois le mot intégré. Nous en faisons partie, on y est, on est dedans. Et on pourrait presque dire que vous le vouliez ou non. On est dedans. Le temple, c'est nous. Est-ce qu'on en a conscience ? Est-ce que nous avons conscience qu'il y a quelque chose ici même ? À bâtir quelque chose où je peux mettre ma pierre vivante. Pierre vivante, moi ? Alors, autre question qui se pose, comment faire partie de ce temple ? Comment être une pierre vivante ? Eh bien, Pierre nous le dit tout simplement, il nous invite, il nous encourage encore une fois à nous approcher. à nous approcher de la pierre vivante. Et vous l'avez compris, cette pierre vivante désigne Jésus-Christ, qui est aussi appelé la pierre d'angle. Ce sont des textes de l'Ancien Testament qui inspirent l'apôtre Pierre. Alors la pierre d'angle, la pierre principale, c'est dans le Proche-Orient ancien, c'est la pierre sur laquelle les autres pierres vont être alignées, et cette pierre devait être à angle droit, à l'équerre parfait et au bon niveau pour que, si on voulait que les murs tiennent debout tout simplement. Et la pierre principale était déjà annoncée par le prophète Zacharie qui dit « car la pierre angulaire sortira de Juda ». Plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, Zacharie dit « la pierre angulaire sortira de Juda ». Juda, la tribu de David, et Jésus est un descendant de David. Et vous l'avez remarqué à la lecture, cette pierre, elle est pleine de paradoxes. Elle est rejetée par les hommes, mais elle est choisie et précieuse devant Dieu. C'est une pierre qui fait trébucher certains, mais qui en sauve d'autres. Comme une pierre sur le chemin de randonnée sur laquelle on trébuche et sur laquelle on se foule la cheville. Ou cette pierre, toujours sur un chemin de randonnée, mais mise dans un ruisseau qui nous permet de passer le ruisseau à pied sec. Une pierre à double effet. Et Siméon, le vieil homme, quand il a pris Jésus dans les bras, où il a dit « mes yeux ont vu le Sauveur d'Israël », il dit aussi « cet enfant sera signe de contradiction ». Jésus n'a jamais fait l'unanimité et il ne fera pas l'unanimité. Ça reste un mystère pour nous en se disant « comment peut-on refuser de croire en Jésus ?» C'est un mystère douloureux, mais c'est le cas. À la fois comme une pierre qui fait trébucher, mais une pierre qui sauve. Une pierre dont le plus grand paradoxe est de donner la vie par la mort, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et donc le bâtiment que nous construisons, il n'est vivant que par cette pierre qui est vivante. Cette pierre que nous sommes, elle n'est vivante que parce si elle s'approche de cette pierre vivante. Et c'est pour cela que Pierre nous invite à nous approcher d'elle, nous les résidents temporaires, à s'approcher de cette pierre vivante. En elle est la vie, la vraie, la vie abondante. Approchez-vous donc de lui. Et le verbe approcher est très intéressant. Il y a Samuel Benetro, qui était mon professeur de Nouveau Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il a été pendant une trentaine d'années prof de Nouveau Testament. Il est membre des églises, il était membre des églises évangéliques libres. Il est décédé à l'âge de 88 ans, il y a 2-3 ans. Et qui disait dans son commentaire, tout est là, le verbe s'approcher. Tout est là et tout découle de là, de ce mouvement d'approche qui dans la Bible est souvent utilisé pour représenter le mouvement de foi de l'individu vers Dieu. Avec ce magnifique verset d'Hébreu 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » S'approcher, c'est faire une démarche de foi. Et là, si on fait appel à une notion de grammaire, c'est intéressant de voir, c'est que dans le texte, dans l'original, le verbe est au participe présent, s'approchant de lui, de la pierre vivante. Et le présent, dans la langue originale, en grec, exprime une action qui dure ou qui se répète. Et donc Pierre choisit le présent pour souligner que ce rapprochement doit toujours être renouvelé. Alors oui, on est déjà intégré dans l'édifice, on est déjà des pierres vivantes en lui, mais il nous faut constamment renouveler ce mouvement de foi vers lui, la pierre vivante, pour recevoir de sa vie. Écoutez ce que dit encore Samuel Benetro. La foi ne peut être une saisie possession définitive, mais une adhésion sans cesse renouvelée, ce choix sans cesse confirmé en faveur de Dieu. Et je me disais comme ça, en cette période de nouvelle année, on a jusqu'en 31 janvier pour formuler des vœux. Et peut-être que nous pourrions prendre le temps de nous questionner par rapport à notre rapprochement de Jésus. Yvonne, on a déjà parlé en parlant des mages qui s'approchent de Jésus. S'approcher de Christ. Peut-être que ça passe par des choses pratiques, comme passer un moment avec Jésus dans la journée, le matin, le midi, le soir. Un moment pour Jésus. Il y avait une église en Belgique qui avait appelé son club biblique ou l'école du dimanche, il avait appelé le MPJ, le moment pour Jésus. Et si nous, pour nous approcher de Jésus, nous avions un moment dans la journée avec Jésus, dans sa présence. J'ai lu ces derniers mois ce petit livre qui s'intitule « Rendez-vous quotidien ». Et il y a une cinquantaine de rendez-vous quotidiens avec Dieu, avec un texte biblique, avec un court commentaire, avec des citations de personnes connues ou moins connues, et puis une petite question à se poser sur soi-même, et puis une prière. Et puis ce qui est intéressant, et que j'ai essayé de pratiquer, mais ce n'est pas facile, il commençait ce moment par 2 minutes de silence. Et il terminait ce moment par 2 minutes de silence. Ben, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 minutes de silence, c'est long. Mais c'est tellement bon de faire silence devant Dieu pour qu'il puisse nous parler. Un moment avec Jésus, dans la journée, où en sommes-nous? Alors, se rapprocher de Jésus, c'est aussi peut-être le faire ensemble en participant à un groupe de maison, il y en a un qui s'est réuni hier soir, c'est le faire ensemble en venant régulièrement à l'église, ce que vous faites puisque vous êtes là ce matin, s'approcher de Jésus en devenant avec lui un serviteur, là où est mon serviteur, je suis avec lui. En servant son prochain, en servant selon ses dons, s'approcher de Jésus en étant sur mon lieu de travail un témoin de ce Jésus, un témoin du Christ, s'approcher de toute manière, de toutes les manières possibles de Jésus, remettre l'Église au milieu de ses projets de vie et non pas comme un accessoire de spiritualité plus ou moins superflu, mais comme un projet de Dieu dont je suis partie prenante ou pierre vivante. Et si le Saint-Esprit nous soufflait ce matin à l'oreille, « Viens plus près, rapproche-toi de moi, parce qu'en moi se trouve la vie, la vraie. » En conclusion, je voudrais parler de la conclusion du passage qui répond à la question « Tout ça pourquoi ?» Tout ça pourquoi faire ? Édifiez-vous pour former un temple spirituel, vous les pierres vivantes, mais dans quel objectif? Eh bien, l'objectif est donné au verset 9. « Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » On est là, le temple est là, les pierres vivantes sont là pour la célébration. C'est d'ailleurs le nom qu'a choisi une petite communauté, une implantation d'église à Beaumont-sur-Oise, où se trouvent notre fils et notre belle-fille. Nous, on l'appelle le culte, mais la rencontre du dimanche matin, ils l'ont appelé la célébration. Tu viens à la célébration dimanche? Ouais, je viens à la célébration. C'est pas mal comme trouvaille. Et puis, ils pouvaient se le permettre, ils pouvaient faire toutes les nouveautés qu'ils voulaient, mais la célébration des œuvres merveilleuses de Dieu, et en particulier son œuvre de grâce. Vous n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, dit-il au verset 10, mais maintenant vous êtes l'objet de la grâce. C'est une merveille, c'est une pure merveille à célébrer constamment. Et c'est pour célébrer que nous formons ce temple. On n'est pas là, voilà pour la grâce. On n'est pas là pour que les gens se disent quel local magnifique vous avez, même s'il est magnifique, il est un peu vintage, mais il est délicieusement vintage et il est très sympathique. Mais on n'est pas là pour que les gens disent que les gens de cette église sont super sympas, même si nous le sommes, ou si nous devrions l'être, si c'est une bonne chose que nous le soyons. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, on est là pour que les gens puissent voir que des hommes et des femmes célèbrent la grâce merveilleuse de Dieu. C'est pour cela que nous sommes tous pierres vivantes. Nous voulons nous rapprocher de la pierre vivante, la principale, celle de l'angle, celle qui donne la vie, pour que nous puissions célébrer ce Dieu magnifique dans sa grâce et dans son amour pour les hommes et les femmes. Moi, pierre vivante, c'était le titre de la prédication, et j'espère que tous nous dirons oui, trois fois oui, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.